Chers amis, Hachem Alechem Tihyo,
les Orech Yamim Tovim et Shanim Niyamim. Nous poursuivons notre lecture et notre étude du Sidour de Tfila. Dans la Tfila du matin, nous sommes au Psouké des Imra. Nous venons de conclure les cinq Alléluka. Et là, sont introduits quatre versets qui commencent tous par Baruch. Et qui sont liés entre eux. Ces quatre versets correspondent à la libération et au salut final à travers les quatre exils. Le dernier est lié aux trois premiers qui sont déjà réalisés par la lettre Vav, comme nous allons le voir. Alors, ils correspondent aux quatre lettres du nom d'Hachem, Yod, Ke, Vav, Ke. Ils correspondent aux quatre niveaux de l'élévation. La tfila est une construction qui va du monde de l'action au monde de l'émanation. Donc nous avons dit que les korbanot, la petiha, l'introduction de la tfila, c'est le monde de l'action à travers les korbanot. Puis vient le monde du chant, donc c'est le monde de la transformation, là où nous allons exprimer la gloire d'Hachem à travers les louanges, les pisouké des imra. Puis va venir le monde de la création, qui est Olam Abriya, c'est les brachot de Kriyat Shema. Puis vient la Amida. Donc ici, les quatre sont liés. Et en vérité, il s'agit de la délivrance, la sortie, se détacher des quatre emprises, l'emprise des quatre empires qui dominent Israël et de l'exil. Alors, Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Alors que la bracha, le mot baruch dans le sens d'ouvrir les vannes et que la bracha, la lumière se répande. Donc la louange que l'on adresse à Kadosh Baruch Hu, qu'on élève vers Hachem, Hachem Avaya Baruch Hu, l'éternel, elle est à jamais. Elle s'inscrit dans l'éternité. Amen, ve'amen. Ankelos, il traduit, le Targum Ankelos traduit ce pasouk. Il est dans le Teilim. Ce pasouk-là est un pasouk des psaumes 89. Il traduit le verset comme suit. Béni soit le nom, Berir, Shemed, le nom de Akadosh Baruch Hu, dans ce monde et dans le monde futur. Donc, c'est exactement ça. Le Olam, on se projette dans l'éternité. David a vu par l'Esprit divin, par Ruach HaKodesh, la venue du Mashiach. Et pour cela, il élève sa louange. Et il bénit le nom de Dieu. Alors que les Rechaïm ne croient pas en sa venue. Ils se permettent de mépriser son nom. Ce verset est introduit ici. Car le psaume 149 traite de la délivrance finale et de la disparition des ennemis d'Hachem. Ce « Messan acha Hachem anavchesna » Et David dit que tes ennemis Hachem, moi je les déteste. Il les déteste pas parce que ils sont des ennemis. Il les déteste parce qu'ils sont contre la Kedusha. Ce n'est pas personnel, personne de sa volonté personnelle. C'est une réaction. Il ne peut pas supporter ceux qui font qui développent la Torah et qui luttent contre la Torah, contre la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem Mitzion, Shochen Yerushalayim, Halleluya. Alors béni soit la bracha à Hashem de Tzion. Donc c'est la ville. Ici-bas, Jérusalem, du bas. Shochen Yerushalayim, qui réside à Jérusalem. La lumière de la présence, la présence de la Shekhina, se répand de Tzion, du sanctuaire, sur la ville sainte. Le Mashiach dit cette louange en s'associant à celle du peuple, des Kohanim et des Lévim, qui sont présents au temple et qui jouissent de ce rayonnement extraordinaire. Donc, dans le temple, comme nous avons vu dans Ezeum et Koman, dans le temple, il y a Kohanim Ba'avodatam, Lévi'im bedouchanam. Les Lévi'im, ils sont sur le douchan, sur l'estrade, et ils chantent. C'est l'association de la gauche et de la droite. Et Israël bemaamadam. Et Israël, ils sont présents pour être présents au moment du korban. Donc c'est la conjugaison des trois kohot, des trois forces, des trois piliers qui se réunissent ensemble. Donc le Mashiach, il est là aussi. Comme le soulignent les versets présents, Bet Israël baruchu et Hashem, Bet Aaron baruchu et Hashem, Bet Alevi baruchu et Hashem, baruchu et Hashem, ceux qui le servent, tous ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, à l'unisson, ils élèvent la louange et ils font la bracha du Boré Olam. C'est-à-dire que la bracha, ça veut dire que le shefa, le flux, il doit descendre sur terre. Le flux de Chochma, le flux de Kdusha, de Tahara, de pureté, le flux d'intelligence, de sagesse, il doit se répandre de plus en plus dans ce monde. Et plus le flux et les lumières jaillissent, et plus le monde se répand. Baruch Adonai Elohim Eloi Israël, Osen Liflot Levado. Alors, là, encore une fois, la louange, troisième verset, la louange d'Israël, pour le Dieu d'Israël, Eloi Israël. Et Hashem Elohim, Elohim Israël, Osen Liflot Levado, il est le seul à faire les merveilles et les prodiges. Alors dans ce verset, ils sont mentionnés deux choses. La délivrance, la première louange, c'est pour la délivrance des deux premiers exils, celui de Babel, où Hanania, Michel et Azaria, ils ont été sauvés de la fournaise. Alors nous disons, Hashem Elohim Israël, celui qui a sorti vivant ses trois serviteurs de la fournaise ardente. Alors, ce sont les peuples qui l'ont, c'est ça le peuple qui l'ont proclamé. On a vu là-bas que Nabucodonosor lui-même, il a commencé à chanter et à dire une louange quand il a vu que Michel, Hanania et Azaria, ils ont été sauvés. Et après, pour la délivrance de l'Empire perse, à l'époque de Pourim, nous disons, lui seul fait des merveilles. Bien que l'on aurait pu dire que la situation s'est renversée grâce à Esther. Elle était c'était la reine. Non, on dit que tout ce miracle de Pourim, il s'est fait uniquement par la volonté de Dieu. C'est lui qui a agi, c'est pas Esther. Et le dernier verset dit, ou baruch shem kevodo le'olam. Là, on met un vav. Donc, yod ke vav. Et le dernier vav, il est lié immédiatement au dernier verset, qui est le dernier. Ou baruch shem kevodo le'olam. Et que son nom soit béni à jamais, sa gloire, le nom de sa gloire. Il soit béni à jamais. Et que sa gloire remplisse et colarisse toute la terre. Amen, ve amen. Pour les différents exils, la délivrance des différents exils, nous disons que le nom soit béni de le nom de sa gloire. Les Grecs disaient aux Juifs, inscrivez, kitvou lachem al keren hashor, el lanu chelek b'Elohe Israël. Il leur disait, inscrivez sur les cornes des taureaux que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Le taureau fait allusion à la faute du veau d'or, où ils troquèrent le Dieu vivant, avec une bête qui mange, qui mange de l'herbe. Pour la délivrance finale, nous proclamons que sa gloire remplisse la terre à tout jamais. Nos maîtres disent que jamais un homme ne prend pleinement conscience de tous les miracles dont Hachem le gratifie. Le seul à connaître la réalité de tous ces prodiges, c'est uniquement Hachem lui-même. De même que les miracles de des délivrances passées se sont réalisés, Baruch Hachem. Alors nous louons pour les miracles passés, et quand nous sommes capables de louer et de glorifier Dieu pour les miracles passés, alors ces miracles se reproduiront de manière amplifiée dans le futur. Alors ainsi, la délivrance à venir se produira avec les mêmes miracles et les mêmes prodiges et qui seront tellement amplifiés qu'ils feront oublier les précédents. En fait, le dernier exil, la fin du dernier exil, est une concentration de tous les quatre premiers exils. Donc, des trois de l'Égypte, comme de la même manière que l'Égypte, les quatre exils, nous avons dit, sont Keneged, Arba, Otiot, Shem, Avaya, Baruch Hu. Les quatre églises sont en parallèle avec le Shem, Yod, Ke, Vav, Ke, les quatre lettres du nom de Dieu. Cependant, l'exil d'Égypte, il est Koutso chez Yod, il englobe, il est la pointe du Yod. C'est le premier qui contient tous les autres. Alors, les quatre exils, de même, à la fin du dernier exil, puisque l'exil dans lequel nous sommes aurait dû durer 1000 ans, comme dit le verset, « Kolayom dava », un jour. Dava, c'est la Midah d'Ot. Nous sommes déjà passés dans le Yesod. Nous sommes au 6e millénaire, nous sommes dans le Yesod. Donc il y a la fin de ce dernier exil, c'est le retour en Égypte. C'est le même système qu'en Égypte, qui concentre tout. Tous les quatre exils, ils se retrouvent dans celui-là. Alors quand on arrive à louer Hachem pour les précédents, automatiquement, on arrive à amplifier et faire en sorte qu'on s'en sorte. On sort de tous ces exils-là et que celui-ci arrive à son terme. Et avec des prodiges tellement plus amplifiés qu'on en oubliera les précédents. Maintenant, on se lève et on dit « Vaivarer David et Adonai l'aîné kolakal, vaiomer David ». Alors ici, ce passage-là, il est un passage des chroniques, du vrai Ayami. À quel moment il a été, à quel sujet il a été dit? Il dit, c'est quand David Ameler, il récite les bénédictions à Hachem, il dit la gloire de Dieu dans ce passage, lorsqu'il a rassemblé le peuple pour transmettre à Shlomo Ameler les plans, toutes les préparations, tout ce qu'il avait préparé pour la construction du temple. Comme nous l'avons dit, il a tout préparé, les plans du temple lui-même, position de chaque élément, les plans des objets, etc. Tout le détail a été fait comme il dit, comme j'ai été inspiré par Hachem. Alors, à ce moment-là, il va glorifier Akadosh Baruch Hu. Alors, il a rassemblé tout ce qui était nécessaire à l'édification du temple. L'or, l'argent, les pierres précieuses, le cuivre, le bois, les pierres de taille, etc., etc. Les tissus, les tentures, pour faire les vêtements du Kohen Gadol, pour faire les vêtements des Kohanim, etc., etc. Tous les détails sont prêts pour faire les tentures, les parochot, et Bechoulé. Tout ça est préparé. Il a préparé même les architectes, les artisans. À ce moment-là, il loue et remercie Akadosh Baruch Hu pour toute cette réussite. Il ne la doit qu'à Hachem. La richesse qu'il a amassée, la puissance qu'il a obtenue, qui lui permet de réaliser tout cela, la splendeur de son règne, tout cela appartient à Hachem. David ne détient rien pour lui. La finalité de toutes ces possessions que un homme peut avoir en ce monde, c'est de les utiliser pour construire une résidence à Kadosh Baruch Hu. Et on remarque qu'à chaque fois, on répète cela, il y a un rapport intime entre la progression de la tefila et la construction du temple. On le voit à travers les psaumes, à travers l'avodat Beit HaMikdash, dans les korbanot, à travers les teilim, comment David exprime cela. Ici, c'est marqué de manière, c'est souligné de manière extraordinaire. La tefila est la construction du temple. Alors le temple, il se construit. Le temple, c'est la résidence que l'on fait à Kadosh Baruch Hu dans un lieu. Et il est la résidence que l'on crée dans notre monde. Quand la Kovea Makom l'itfilato, Eloé Avraham Be'ezro, et on dira de lui, Eze Hassid, Eze Anab. Il dit combien il est modeste, combien il est pieux, etc. Alors il va fixer un lieu pour la prière. Alors, et le Dieu d'Abraham va le venir en aide, et on dira de lui qu'il est modeste, qu'il est pieux, etc. Quel rapport? En vérité, le makom, la place qu'on fait à Dieu, celui qui koveya, il fixe une place à sa prière. La prière, la place qu'il fixe, c'est la place de Dieu. Il ne s'agit pas uniquement de prier toujours au même endroit, à la même place dans la synagogue, toujours dans la même synagogue, essayer, etc. C'est pas uniquement ça, pas dire qu'il faut le faire. Mais c'est l'essentiel de cette idée, c'est de faire une place dans ton monde à Kadosh Baruch Hu. Et je répète souvent, quand on pose la question, ça fait plus de 40 ans que je pose cette question, et je dis, et où est Dieu? Et les gens me répondent partout. C'est le plus grand mensonge qui existe. Parce que, à voir les gens, comment ils se tiennent, on voit que Dieu, il est pas là où eux, ils sont assis. Parce que si Dieu, il est présent là où tu te tiens, tu ne peux plus bouger. Et c'est évident que Dieu, il est présent partout dans son monde. Mais c'est pas de ça, c'est pas là le problème. Le problème, est-ce que Dieu, il est dans ton monde? Dans ton olam à toi, dans ta bulle, dans tes soucis, dans ton attitude, quand tu manges, quand tu bois, quand tu marches, quand tu travailles. Est-ce que Dieu, il est dans ton monde? Est-ce que tes préoccupations, c'est faire que votre shamaim, là où tu es? Quelles sont tes préoccupations essentielles? Quelle place tu fais à Dieu dans ton monde? C'est ça la raison. C'est ça le fondement des choses. Et on verra, ça c'est souligné de manière spécifique dans les prosternations, les créotes que l'on fait dans la Hamida, que c'est ça le sens de Kol HaKoveh Makom L'Tfilato. Il faut faire une place dans la prosternation à Akadosh Baruch Hu. C'est là le sens profond de faire une place à celui qui est appelé Makom. Donc tout ce qu'on possède, c'est pour mettre cela au service de Dieu, lui faire une résidence, lui faire un makom. Alors c'est ça, on dit, et le Avram Be'ezro. Pourquoi? Parce que les Avot, hem a Merkava, les Avot a Kedoshim, eux-mêmes, ils sont la Merkava. Et le Ramban dit dans son introduction au Sefer Shemot, et il dit aussi, à plus deux ou trois endroits, dans la construction du temple, que la finalité de la sortie d'Égypte, de la construction du Mishkan, c'est que Am Israël retrouve la madrega des Avot HaKedoshim. Que les Avot HaKedoshim, ils n'avaient pas un temple. Eux-mêmes, leur maison, c'était le temple. Comme il est dit au sujet de Sarah, Anan Kachour, il y avait la nuée attachée à la tente. Il y avait la lumière allumée de Shabbat en Shabbat. Il y avait la bracha dans le pain. C'est quoi ça? Ça, c'est le Hanan HaKetoret. La présence de Dieu se manifeste par le Hanan. Le pain, c'est l'Echem HaPanim. La lumière, c'est la Menorah. Donc, Avraham Avinu, il est Kohen Gadol dans sa maison. Le temple, c'est sa maison. Donc, Hem HaMerkava, lui, quand il est là où se trouve Avraham, il amène la Shekhinah. C'est le premier Avraham, là, pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, il lui dit, va, parcours la terre de long en large. Pourquoi? Il a mis la Kdusha, il a apporté la présence de la Shekhinah et la présence de Dieu. Là où il mettait son pied, il a installé la présence de Dieu sur terre. Là où il va, pour ça qu'il est parti en Égypte, préparer le terrain, préparer, il leur fait déjà une place. Il fait venir déjà la Shekhinah. La Shekhinah, elle est en Égypte depuis Avraham pour déjà préparer le terrain que les Israélites puissent s'en sortir, etc. Donc les Avot HaKedoshim, ils sont Hem Amerkava, ils sont le char de gloire de Dieu. Alors on dit Eze Anav Eze Hasid. Celui qui fait ça, Kol HaKoveh Makom L'Tfilato, à ce moment-là, il est Anav parce qu'il fait abstraction de ses propres volontés et il sert toute son être. Il rassemble toutes ses énergies, ses volontés, ses pensées, ses forces, ses biens, tout pour servir Dieu. Donc il s'annule, il est anav. Et il est hassid, parce qu'il fait ça, il fait ça pour le bien de la Shekhinah Kedosha. La deuxième partie, donc, dans la première partie de ce paragraphe, c'est, donc nous avons dit, il est emprunté au Divrei Hayamim. Nous allons voir maintenant ce texte. Vaivarer David et Adonai l'aîné kol hakal. Alors David, en présence de toute l'assemblée, comme nous l'avons dit, il leva une louange à Dieu. Bracha. Bracha, ça veut dire qu'il suscite l'amplification, une intensité dans les flux de Kdusha qui descendent dans ce monde. Alors il s'exprime ainsi. Vayomer David. Baruch ata Adonai Elohe Israël Avinu, Me'olam ve'adolam. Il dit, tu es béni toi, loué, béni sois-tu éternel, loué sois-tu, tu es source de bénédiction. Israël, Elohe Israël, Avinu. Mais Olam Veadolam. Notre Père. De monde en monde, d'éternité en éternité. Donc, mais Olam Veadolam, nous avons dit à plusieurs reprises que le premier Olam, c'est le Malchut, la Sphira de Malchut, et elle transcende, elle dépasse l'espace de la création et du temps, et elle arrive à la Bina. Mais là, Olam Veadolam, c'est la liaison qu'il y a entre le Malchut, la réalité physique du monde tel qu'il est aujourd'hui, relié à sa source qui est la Bina. Donc c'est, on passe dans l'éternité. Alors on explique le verset. Le verset précédent à celui-ci, dans les Divrei Hayamim, il dit, le peuple, le pasouk dit que le peuple était une joie extraordinaire, d'exaltation. Il se réjouit de cette générosité. Car c'est de bon cœur Hacher, il dévène au libo dans la trouma, il y a marqué. Pour apporter, donner de l'argent pour construire le temple, il faut le faire porté par la volonté de servir Dieu. De tout son cœur. Alors, ils ont apporté leur donation avec tout leur cœur. David aussi, en éprouvant une grande joie, il voit combien la générosité, c'est-à-dire que c'est pas sur la somme qui est importante, c'est la manière d'apporter qui traduit la joie. Alors, pour que la réalisation se réalise. Arrive à réussir. Il est impératif que tous ceux qui ont offert leur argent, leur or, tout ce qu'ils ont offert, peu importe, encore une fois, la somme, le fassent avec joie, ferveur, enthousiasme et passion. Une ardeur, la volonté, c'est ce que le pasouk dit. Hacher idevenno libo, tigro et teromati. Celui qui est porté par la volonté de donner. Donc ça traduit la générosité totale du cœur. La satisfaction de David est immense. Non pas pour les sommes rassemblées, évidemment, mais surtout de la manière dont le peuple, il a apporté ses dons. Parce que si on fait de mauvais cœur, alors c'est que le mauvais cœur, c'est comme si qu'il met un venin dans la coupa. Quelqu'un, il ramasse l'argent pour une institution. Alors il ramasse 1 million. Et il y a quelqu'un qui vient, qui lui donne une grosse somme. Mais il le donne avec mauvais cœur, pas de générosité. Il a mis le venin, il l'a fait rentrer dans la coupa où il y avait déjà de l'argent, il a mis un venin. Il a pourri, ce qui va pourrir, c'est un verre qui va pourrir tout ce qu'il a ramassé. La Shérina n'aurait pas résidé dans un sanctuaire construit avec des dons faits de mauvais cœur. David comprend que cette extraordinaire pureté dans leur intention d'offrir est un don de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il les a éclairés, il a fait souffler sur eux Ruach Kedusha v'Tahara, un vent de pureté qui les a purifiés. Que tous, sans exception, aient donné leur offrande avec un cœur entier, une ardeur parfaite. C'est un miracle. C'est pour cela qu'il bénit l'Éternel devant l'ensemble du peuple. Pour que tous ceux qui ont apporté sachent, eux-mêmes ont remercié Hachem. Et qu'ils n'en retirent ni fierté, ni orgueil, ni gloire, ni rien. Tout c'est la gloire, être heureux d'avoir fait pour Hachem quelque chose. L'abondance des dons et leur qualité, ils la doivent à Hachem. Israël, Elohé Israël, Yaakov est celui qui a montré la voie en disant que cette pierre que j'ai érigée à Even Hazot, Hacher, Kamti Matseva, Yebet Elohim, que cette pierre que j'ai érigée, elle devienne la maison de Dieu. Et de tous les biens que tu m'octroies, de Kolachatiten, Yahasera, Serenoulah, j'en préleverai le Mahaser. Yaakov prononça un éder, un vœu, en ces termes. Vaïdar Yaakov Neder les morts. Rabbi Abaou dit dans la Gemara, dans le Midrash plutôt, au sujet de ce verset, il lui dit, souviens-toi, Seigneur de David, du serment qu'il a fait à l'Éternel, du vœu qu'il exprima au Dieu de Yaakov. Alors, ce psaume traite de la volonté de David de construire le sanctuaire. Il n'est pas dit au puissant d'Abraham ou d'Ithak, mais de Yaakov. Le vœu de David est lié à celui qui a ouvert la voie. Le flot d'abondance qu'Israël offre à cette occasion le vient de Yaakov lui-même, quand il reçoit cette bracha au moment de la vision de l'échelle. Comme il est dit, Va Hachem nitzav alav, le Hachem, il était sur lui. Alors, les anges, ils montent et descendent. Vachem nitzav alav. Alav sur qui? Hachem, il se tient sur Yaakov. C'est le sens de cette bracha que David Amelech, il élève à l'éternel, à Kadosh Baruch Hu. Vayomer David. Donc, dans ce, Vaidaber, Vaivarer, David et Hachem, les rachetés votes sont Vav, Dalet, Aleph, Yod, qui fait 21. C'est allusion au Shem Ekié, Aleph, Ke, Yod, Ke. Le Shem Ekié, c'est se plonger, se projeter dans l'avenir. C'est ce qui nous donne la force d'aller vers l'avenir. C'est comme il dit, je suis celui qui sera. Je suis avec eux comme je serai avec eux. Alors, c'est se projeter. Le Shem Havaya, c'est l'instant présent. Mais le Shem Ekié, c'est la force du Shem Ekié quand on se projette dans l'avenir. On a l'espérance de. Vayomer David, Vayomer Baruch Ata Hashem, Elohe Israël Avinu Me'ona Be'adonam. L'abondance se revivifie à sa source. C'est ça le mot Baruch. Elle se développe, c'est Ata. Et s'amplifie, Shem Havaya, Baruch Ata Hashem, pour atteindre Israël avec puissance. Avinu, c'est quoi Avinu? Cette bénédiction traverse les mondes en les reliant les uns avec les autres. C'est Avinu, c'est Yaakov. Les uns avec les autres. Elle passe des mondes les plus hauts, qui sont dissimulés, mais Olam, vers Olam, jusqu'au monde où elle apparaît et se dévoile. Donc la bracha, elle est très haute. Alors elle passe des sources les plus hautes, Baruch, Ata, Hashem, comme nous l'avons dit. Après, on dit Avinu, c'est la Middat Chochma, c'est la Sphira de Chochma. Après, elle passe, mais Olam, Ve'ada Olam. Olam, c'est la Bina, jusqu'au monde en bas, ici-bas. Et c'est là qu'elle se dévoile, comme on le voit à l'époque de David. Donc c'est ça, ils construisent le temple. C'est le sens profond des mots de cette bracha. Après, il dit, Lecha Adonai Agedola, Ve'agevora, Ve'atiferet, Ve'anetzar, Ve'ahod, Kichol Bashamayim Uvaret. Ici, ils sont mentionnés les sphirotes, les six sphirotes de l'espace. À toi, ô Seigneur, Hachem, Havaya, appartient la grandeur, c'est Midat à Hesed. À Gvura, c'est la Midat de Din, de la puissance. Tiferet, c'est la gloire, donc c'est la Midat de Yaakov. La Netzah, c'est Midat de la victoire. L'éternité, c'est celle de Moshe, Koach HaTorah. Et Ahod, c'est la splendeur qui appartient à Aaron. Kichol, le mot kol fait toujours référence à la mida du Yesod. Parce que la mida du Yesod, les cinq premières ont des énergies propres, et le mida du Yesod, elle rassemble toutes les énergies, les cinq énergies, et les concentre, elle contient tout. Le mot kol, valeur numérique 50, chacune des sphirotes a 10 énergies, et ça fait 50. Kichol, bashamayim ubaaretz. Tout ce qu'il y a, car tout est dans tout ce qu'il y a sur le ciel et la terre, et à toi. L'Echa Adonai Amamlacha, c'est Malchut, appartient à la royauté. Amitnase, l'Echa Reosh, elle va dominer et monter, s'élever au-dessus de toute chose. Alors ici, le pshat, il est, quand les flux d'abondance passent des mondes cachés, comme nous l'avons dit, au monde révélé, alors les flux et transite par le petit visage, c'est Iran Pin, c'est les Sphirot, Agedola, Vagevura, Vatifere, Vanessar, Vahod, Kichol. C'est le visage d'Iran Pin, le petit visage de Yaakov. Il comporte six Sphirot, qui correspondent au séjour de l'action ou de l'espace, les quatre points cardinaux, les quatre directions, le haut et le bas. Toutes ces Midot se lient entre elles, et se mettent en harmonie pour que le flux les traverse et vient se déverser dans la dernière sphira qui est la royauté, le malchut. Après, ce malchut-là va distribuer tout ça au monde inférieur, aux êtres humains. Ces sept sphirotes sont citées ici par David pour souligner la symbiose et l'harmonie des mondes. La grandeur, à Gedola, c'est la sphira de Hesed. La bonté, c'est la qualité d'Abraham. Elle est sans limite. C'est le plateau droit de la balance, symbolisé par le bras droit de l'arbre séphirotique. La puissance, la Gevura, c'est la sphira de rigueur et de justice. C'est la gauche, c'est la qualité d'Itzhak. Sur le plateau gauche de la balance, il y a donc le din. La gloire, Tiferet, c'est celle de l'harmonie. Elle fait l'équilibre entre les deux extrêmes. C'est la mida de Yaakov. C'est le fléau de la balance qui est symbolisé par le buste de l'arbre séphirotique. Le netzar, la victoire, c'est la jambe droite. L'ambition et la volonté, c'est la qualité de Moshe. La droite, la splendeur et la svira du hod. La splendeur, c'est l'humilité, celle de Aaron. Elle met une limite à l'ambition. Qu'il n'y ait pas de débordement. Est symbolisée par la jambe gauche de l'arbre séphirotique. La svira du Yesod, elle est mentionnée par le terme kol, qui kol bashamayim, tout. Car cette svira, comme je l'ai dit précédemment, ne possède pas d'énergie propre. Elle rassemble celle des svirotes précédentes, supérieures, pour les diriger, les canaliser vers la svira du machout de la royauté. C'est la qualité de Yosef. Elle est symbolisée par le membre de l'homme de l'arbre séphirotique. C'est le fondement, la fondation qui supporte tout l'édifice. La royauté ne possède rien de par elle-même. Elle n'est que le réceptacle des énergies transmises par le Yesod. C'est la Mida de David. Le jour du Shabbat ne produit rien. Il ne vit que des 6 jours de la semaine. Et quand il reçoit tout ce qu'il reçoit, il s'élève et monte sur la terre, à la tête, et il couronne le système. Les 3 sphirotes suivantes sont au-dessus du corps. Elles se situent au niveau de la tête. Elles ne sont pas accessibles, ce sont les mondes voilés. C'est pour cela que David ne les mentionne pas par leur nom. La plus élevée de ces sphirotes est le Keter. C'est la volonté première du Créateur, Ratson, qui est le Tsinor. Elle est symbolisée par le crâne de l'arbre séphirotique. Puis vient la sphira de Chochma, le savoir, qui est appelée Abba, le Père. Ce que le maître enseigne à son élève, elle est symbolisée par l'hémisphère droit du cerveau dans l'arbre séphirotique. Et enfin, la sphira de Bina, l'intelligence, la déduction, le fait de déduire les choses les unes des autres, le discernement. C'est ce que l'élève ajoute à l'enseignement du maître. C'est l'hémisphère gauche du cerveau. Cette sphira, c'est la matrice de toute vie. Toute cette construction est liée, attachée au maître du monde, que l'on désigne par le sans fin Baruch Hu, En Sof Baruch Hu, qui donne la vie et la maintient à tous les niveaux de la création. Il est comme la Neshama qui anime le corps, comme cela est mentionné dans la prière de Eliyahu Navi, le fameux Patah Eliyahu Navi Ve'amar. Le Ramdou, Rabbi Moshe Wali, Talmid Chaver du Ramchal, il demande: pourquoi David mentionne-t-il toutes les sphirotes dans cette louange? Alors il dit pour leur enseigner les secrets du savoir mystique, probablement. Alors il dit peut-être que pas. Ce sont les rudiments du savoir à leur époque, tout le monde savait ça. Même les jeunes disciples des grands maîtres maîtrisaient ce savoir. Le roi David, en vérité, c'est pas ça son idée. Le roi David prépare la construction du temple. Il désire que cette œuvre soit parfaite. Les différentes parties du temple et ses dépendances seront la réalisation physique de l'édifice spirituel des mondes supérieurs. En prononçant leur nom tel qu'il le fait, en répandant dans ses mots la bracha, comme il le fait, il construit le temple de Shlomo de manière spirituelle. Comme de dire Rav Nachman de Breslav à plusieurs reprises, et il n'est pas le seul, il y a beaucoup qui disent que déjà par le regard, par la pensée et par la parole se forment les choses. Les choses sont déjà formes, la pensée déjà, le regard, la pensée, elle forme. On pense à quelque chose, déjà c'est fait, ça a une forme. La marchavakad, comme il dit, kad ala birote, quand il a voulu, quand c'est venu dans sa volonté, la pensée. La parole, elle forme aussi. Alors c'est ce qu'il est en train de... David HaMelech, en prononçant ces mots, il est en train de construire le temple. Shlomo HaMelech, il n'aura plus qu'à réaliser physiquement, mais spirituellement. Ruchaniut, ça existe déjà. Après, il dit, Ve'aosher ve'akavod milefanecha, la richesse et la gloire, ils sont devant toi. Ve'ata Moshe Bakol, et toi, tu es souverain, tu les maîtrises. Ou biatra koa hogvora, et entre ta main, la force et la puissance. Ou biatra le gaddel ou le hazek lakol. Et entre ta main, la possibilité de grandir et de tout renforcer. Comme nous l'avons dit plus haut, David ne possède rien de lui-même. Les 70 années de sa vie lui ont été octroyées par Adam. Dans le psaume, il est dit, Aromemcha Hashem qui dit litani, tu m'as élevé. Le mot dit litani, c'est le même mot que puiser. Donc c'est comme si David il est au fond d'un puits, et quand je vois il va le sortir du puits. Et pourquoi faire il a sorti du puits? Pour le mettre sur le trône d'Israël. Les deux premiers mots de ce, première lettre de ce mot dit litani, dal, dalet la met, font allusion à la pauvreté, signifie celui qui n'a rien. C'est ça ce qu'il dit ici David. Ve'ata Eloheinu modim anachnu lach umahim meshen tifatecha. Et maintenant, à cet instant, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom et la puissance de ton nom glorieux. Avoir le mérite de donner de son argent pour accomplir une mitzvah, comme celle de construire le temple, le faire avec tant d'amour, de passion, alors nous devons rendre grâce à Hachem. Alors ici, c'est dans ce passage qu'on met une pièce dans la tzedaka, nous dit Rabbeinu Ahari. C'est ici, quand on dit, le passage, Ve'aosher ve'akavod milefanecha ve'ata Moshe Bakol. Alors, on dit Bakol, on a dit que Gemataria ben. Ou Biatra Kowa Ogvura. Donc, c'est ici Biatra Kowa Ogvura. Ou Biatra Legadel. Là, il y a ici un schéma qui commence par les rachetés votes. Bakol. Ben. Bakol. Ou Biatra. Bet de Bakol. Le Vav de Ou Biatra. Le Kav de Kowa. Et le Vav de Gvura, ça fait un schéma qui. C'est Bet Vav. Plus loin qu'Avav. C'est un Shem qui a la valeur numérique de 52. Ce Shem-là, c'est le Shem de la Tzedaka ici qui est dit, qui est donné. Ou biatra, le gadel ou le hazek la kol. Ici, on met deux pièces de Tzedaka. Au moment où on dit, ve'aosher ve'akavo milefanecha. Et on met les pièces de Tzedaka avec la kavana suivante. Kavana sainte. Kavana, la pièce, c'est le yod du Shem Havaya. La main, les cinq doigts de la main droite qui tient la pièce, c'est le du Shem Havaya. On tend le bras, c'est Yod Kevav. D'accord? Ici, on donne deux pièces plus une pièce. La boîte de Zakat dans laquelle on met la pièce, c'est le dernier Hé du Shem Havaya. Donc, on relie, en faisant cette Kavana-là, on relie le Shem Havaya. Et quel rapport ça a avec notre sujet? C'est parce que c'est ça. Lui, il a dit, les gens, ils ont donné avec joie, ferveur, entrain, il est étonné, il loue Akadosh Baruch Hu pour ça, pour la passion et l'entrain, la sincérité dans le don, qui va permettre de construire le temple. Et dis donc, si on met deux pièces et une pièce dans la boîte de Zaka, avec cette kavana-là, on fait cette mitzvah-là uniquement pour donner la gloire au nom de Dieu. Avec une petite pièce de Zaka, on reforme le nom de Dieu, on lui donne une puissance. L'action du bain, elle donne une ampleur extraordinaire à l'action. Si on sait lui associer la bonne intention. Après, ici, comment se déverser le reste, la suite du texte? Ce n'est plus dans les chroniques, c'est dans le livre de Néhémia. Alors, c'est au début du chapitre 9 de Néhémia. Alors, là-bas, il est dit, le 24e jour du mois de Tishrei, les enfants d'Israël s'assemblèrent pour un jeûne, revêtus de cilice et couverts de terre. Ceux de la descendance d'Israël se séparèrent de tous les fils de l'étranger, parce que quand ils sont montés, ils étaient mélangés. En Babel, ils se sont mariés avec des femmes étrangères, on savait plus qui était qui, etc. Comme la Gemara, le Psukim le dit, et comment la Gemara à Sarah, il y a la Mishnah dans, à la fin de Kiddushin, dans les chapitres qu'il y a, il dit, il y a combien de gens qui sont montés avec Ezra? Ils étaient tous mélangés. Alors là, il s'agit de les séparer. Alors, ils se présentèrent et confessèrent leurs péchés et ceux de leur père. Ils avaient contracté des mariages avec des peuples étrangers. Ils se séparèrent de leur épouse non juive et de leurs enfants. Plus loin, il est dit, que le jour du Shabbat était profané par certains, et qu'ils ne s'acquittaient pas de la redevance aux Lévilim et aux Kohanim. Ils ne payaient pas le Maaser, la Trouma, etc. Ils ne payaient pas. La situation spirituelle du peuple était tellement dégradée, extrêmement dégradée. Alors Ezra et Nehemia, les Kohanim, les Lévim, avaient beaucoup de travail pour enseigner la Torah et lutter contre l'ignorance du peuple. Il fut conclu un pacte et un engagement de tous pour le respect de la Torah et de la loi. C'est ça le Mahamad qu'il y a eu à ce moment-là. Alors les Lévim se levèrent et dirent cette magnifique louange. Vaivachu. Et ici, regardez, c'est étonnant parce que le verset commence, le début du texte commence au milieu d'un verset. Dans le verset, au chapitre 9, au verset 5. Au milieu. Alors, il dit, Vaivachu, Hashem, kevodecha, amonam, akobelcha, otila. Alors, dans le Noussah Ashkenaz, il n'y a pas ce fragment de verset. Tout verset. Alors, ici, il y a une vraie polémique, un vrai problème. Comment on peut prendre un morceau de verset et on fabrique un verset? Le verset, il est incomplet. Et la Gemara dans Megillah, elle dit, on l'a souligné à plusieurs reprises. Tout verset que Moshe n'a pas sectionné, on peut pas, nous, en prendre un morceau. On peut pas faire un demi pasouk. Alors, cependant, les Gonim rapportent la coutume de réciter ce passage, ce verset-là, à la suite des louanges prononcées par David. Alors, il semble que le Zohar confirme cette habitude. C'est marqué dans le Parashat Shelach Lecha, la page 168b. Alors, il dit, on le récite, car il cite les louanges de David en incluant ce passage. La question se pose, est-il autorisé de réciter un demi-verset dans un autre contexte? Alors, il dit, certains disent que cette interdiction ne concerne que les Ketubim. D'autres disent que l'interdit ne s'applique qu'à la première partie du verset, non à la deuxième partie. Ici, il s'agit de la deuxième partie. De même, on peut répondre qu'un demi-verset peut être récité comme une prière, et pas comme un verset. Donc, il n'entre pas dans cette règle. Alors, tout ce passage qui est le début de la prière prononcée par les Lévites est placé ici comme introduction à la Shira. Parce qu'à la fin de ce passage-là, ils vont rappeler les miracles de la, et ils vont arriver à la Shira. Et comme on va dire la Shira après, alors on l'a mis en introduction. Tous ces versets, ils voulaient donner du Hizouk au Am Israël. Donc ils vont rappeler toute l'histoire juive. Tous ces versets retracent l'histoire d'Israël. Du récit de la création à l'élection d'Abraham, de sa descendance, la descente des enfants de Jacob en Égypte, l'esclavage, les plaies, etc. Et Akash Bokhu, il a promis la terre d'Israël, la terre des sept peuples à Abraham, etc. Alors, le sens profond de ce passage est la prise de conscience de la particularité de la destinée d'Israël. Hachem dirige son monde par la direction générale et par la direction miraculeuse, comme nous avons répété cela à plusieurs reprises. C'est ce que les maîtres définissent par la vigilance, l'attention globale. Ashgaha klalit. Et à celle qui est soumise aux lois de la nature. Et à celle qui est en dehors des lois de la nature. Elle apparaît à la sortie d'Égypte. Alors il leur dit, voilà, vous voyez, vous croyez pas être comme toutes les nations qui sont dans l'Ashgaha klalit. La direction globale. Vous êtes en Israël, vous avez une direction particulière. Elle apparaît en toute sa puissance à la sortie d'Égypte. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. C'est elle qui guide Israël pendant 40 ans dans la traversée du désert. Cependant, elle commence son action dès avec la venue de Abraham, qui, selon les normes fixées lors de la création du monde, ne peut avoir d'enfant. Alors, il le sort du système, il lui dit, Abed, regarde de haut les étoiles et tu auras une descendance comme celle-là. C'est cette direction-là qui s'exprime dans la Torah à travers le Shem Havaya Baruch Hu. Alors il dit, Ata ou Adonai levadecha, tu es le seul être éternel, le seul être qui dirige le monde et qui dispense la vie à ceux qui ont été créés. À chaque instant, Hachem renouvelle les paroles de sa création et permet au monde de subsister. Ata asita et Hachem Hachem vekol sevam, tu as créé le ciel et les cieux des cieux et tout ce qu'ils contiennent. La terre et tout ce qu'elle couvre, les mers et tout ce qu'elle renferme. Arrête vechol asher aléa, yamim, vechol asher baem. Le mot yamim ici, c'est les mers, il faut mettre un dagesh, il faut accentuer le même. Sinon après, ça va dire yamim, c'est les jours. La question est posée dans le midrash. Qu'est-ce qui a été créé en premier, la terre ou les cieux? Alors, il y a mahaloket. Dans le premier verset de la Torah, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais au deuxième chapitre, il y a marqué, il a fait la terre et le ciel. Dans ce verset apparaît, ici, il y a marqué, Beyom Asot Hashem Elohim. Le Shem Havaya, il apparaît ici. Avant le Shem Elohim. Dans ce verset apparaît le nom de quatre lettres. C'est là, au début, Hashem avait l'intention de créer le monde de Midat Hadin. Alav Marshava Livroita Alam de Midat Hadin. Il a vu que ça marche pas, le monde il peut pas subsister. Il lui a associé, non seulement il lui a associé, il a fait précéder Midat Arahamim. C'est le sens, c'est pour cela que le verset dit, la terre est créée avant le ciel. C'est la terre où les hommes vivent, qui ont besoin absolument de la miséricorde. Les êtres du haut, les supérieurs, ils n'ont pas besoin tellement de miséricorde, ils sont capables de se tenir aux règles de la justice, ils savent accomplir parfaitement les ordres d'Hachem, ils ne transgressent pas. Et toi, tu donnes la vie à tous les êtres, et l'armée du ciel s'incline devant toi. Jusqu'à la venue d'Abraham, le monde et l'ensemble de l'humanité n'existaient que par la bonté de Dieu. Comme on dit, Odou Lachem Kitor, Kilolam Hazo, etc. Il y en a 26. Pourquoi? Parce que 26 générations jusqu'au don de la Torah. Donc, pour comment est le monde, il a subsisté? Behesed Elyon. Quand vient la Torah, il y a du mérite. C'est toi, Ata ou Adonai HaElohim. C'est toi le Dieu, éternel Dieu. Asher Baharta Be'Abraham, qui a choisi Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Et tu l'as fait sortir de Ur Kasdim, de la fournaise. Et tu lui as donné le nom de Abraham. Abraham, donc comme on a dit, Abraham n'enfante pas, c'est Abraham qui enfante. Pour ça qu'il s'est marqué ici de cette manière-là. Et Bei Baram, et les Toldot Hashemayim Baris, Bei Baram. Pourquoi le monde il a été créé? Par le mérite d'Abraham. 248, c'est le système dans sa globalité. Quand je vois qu'on lui a ajouté un hé. Après, il dit, au matata et les vaon et tu as trouvé que son cœur, il est fidèle. Devant toi. Tu as fait une alliance avec lui. Une alliance solennelle. La tête est terrestre. Alors ici, il dit, tu as promis, tu as fait une alliance de lui donner la terre de Kenaani, de Hiti, Emori, Périsi, Yebusi, et Girgashi. La tête est allant. Tu lui as promis la terre des sept peuples. Mais ici, elle n'a marqué que six. Et tu as accompli fidèlement ta parole parce que tu es un homme, tu es un être juste. Il est fidèle parce qu'il accomplit exactement ce qu'il dit. Alors pourquoi six? Ici, il y a une kavana extraordinaire. La kavana ici, elle est c'est les six peuples qui sont mentionnés ici, c'est les peuples Kohatuma. Alors chacun, il a une madriga, chacun, il se place dans la structure de l'arbre des Tum'a, chacun, il a une place dans le système du temps et de l'espace de la Tum'a. Un à droite, un à gauche, le bras droit, le bras gauche, le buste, etc. Chacun des peuples, en les prononçant, il faut avoir la kavana de détruire la particularité de chacun de ces peuples. Chaque force de Touma doit être éliminée. C'est la kavana de ce texte. Alors, fidèle, Ne'eman, c'est un qualificatif exceptionnel pour un être humain en général. Parce que l'être humain, il n'est pas fidèle. Il dit un mot et il dit, je viens demain à 7h, il vient pas à 7h. Il va venir 7h-5 peut-être, mais sûrement il va venir 7h10. Il dit, ah, pourquoi tu es en retard? Il dit, ah, mince, et quand j'ai 17h, c'est à peu près. Je vais faire telle chose. Il ne le fait pas exactement. Néhéman, c'est très difficile d'être Néhéman. Il n'y a que Hachem qui est Néhéman. Le droit d'Israël sur sa terre vient de la direction particulière de ce monde. Israël n'a aucun droit sur la terre. Le droit sur la terre qu'a Israël, c'est les malam inateva. C'est parce que le Shem Havaya, il vient, il s'installe, il apparaît et il domine la nature, les règles naturelles. C'est le sens que ce que dit Rashi au début, pourquoi il a commencé la Torah avec Bereshit, pour dire quoi Arma Asabi Gidlamo. C'est le sens du début de Rashi, le premier Rashi de la Torah. Le récit de la création vient répondre aux nations du monde qui accusent Israël d'avoir usurpé la terre des sept nations. de sept peuples. La réponse de laquelle la Torah leur donne est qu'Abraham et sa descendance ont une destinée au-dessus des lois de la nature. L'apparition de ce concept commence avec Abraham et prend toute sa dimension avec les 10 plaies, les miracles de la sortie d'Égypte, etc. Va t'éteindre à beauté l'homme Israël. Alors comment ça? Ben voilà la sortie d'Égypte. Tu as vu le malheur de nos pères, la misère de nos pères en Égypte. Zarakatam Shamata, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont voulu sortir. La volonté, le pshat ici, il est extraordinaire. Pourquoi on a besoin de prier? Dieu, il sait pas qu'on est dans la galère et qu'il faut qu'il nous délivre. Est-ce que Dieu, il a besoin de ma prière pour me faire ce que j'ai besoin? N'est-ce pas là sa volonté de me faire du bien? Alors pourquoi je suis en galoute? Il dit, la volonté de Dieu, Vadek, elle est de faire du bien. Mais la volonté, elle est infinie. Elle est dans les mondes supérieurs. Elle n'est pas limitée, ni dans le temps, ni dans l'espace. Quand je prononce ma prière, alors moi, j'exprime une volonté. Alors ma volonté doit aller dans le sens de la volonté de Dieu. Et arriver à un tel stade que la volonté de Dieu s'habille dans ma propre volonté et se réalise. Ça veut dire que je donne à la volonté de Dieu qui est dans les mondes de l'infini une réalité dans le monde du fini. C'est-à-dire je lui donne une réalité dans l'espace et qu'elle se réalise immédiatement. C'est ça le pshat de la tfila. Les albich retsono bertson aboré. Birtson aboré mitlabesh birtsono. C'est le sens de la prière. Alors, c'est ce qui est marqué ici. Ils ont crié, et Dieu, donc, comme ils ont crié, ils ont habillé la volonté de Dieu dans leur volonté. Mais Zakatam Shamatan Yamsouf. Donc, tu as entendu leur cri quand ils étaient devant la mer. Petitel, Oto, Tumoftim, Befarov, Horavadam. Donc, il y a eu des prodiges extraordinaires qui se sont passés sur Pharaon et ses serviteurs. Kiyadata, Kizidoalem, parce qu'ils méritaient. Donc, là-bas, dans Kiyat Yamsouf, c'est extraordinaire, parce que c'est Midatadil qui s'abat. Pour les uns, c'est Midda, Keneged Midda, comme on va le voir plus loin. C'est-à-dire que la justice divine se fait de manière implacable. Pour le juste est récompensé à la mesure de son mérite, et le méchant, il est puni à la mesure de sa méchanceté. Chacun selon ce qu'il fait. Tu t'es fait un nom, ton nom s'est retenti dans le monde. Ça veut dire que la Midat Adin et la Midat Arahamim, elles se sont exprimées et de manière implacable. Et tout le monde a su ça. Et donc tu as ouvert la mer devant eux. Ils ont traversé la mer à pied sec, comme sur du velours. Et leurs poursuivants, tu les as jetés dans les profondeurs des eaux. Ils sont tombés comme une pierre dans les eaux puissantes. Alors ce sont tous les midrash. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit tous les midrash et les prodiges qui témoignent un traitement particulier de faveur à Israël, qui mérite de la terre. Comme il est dit, car vous allez traverser le Jourdain. Je dis voilà, il est à terme, vous mettez Yarden. Vous traversez le Jourdain pour prendre la terre. Alors Rachid dit que tous les miracles qui vont se produire dans la traversée du Jourdain seront pour vous un siman, un signe que vous allez hériter de la terre. Si je traverse le Jourdain de cette manière, ça veut dire que la continuité, la conquête se passera dans la même dimension. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. C'est la conquête d'Israël, l'établissement d'Israël sur sa terre, va se passer par la conduite miraculeuse de ce monde. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.